Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Geneviève Peterson.
Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
Un article ce matin qui a attiré mon attention sur le laxisme au Québec quant à la propagation des cas de COVID-19. On va se questionner sur les mesures sanitaires et sur notre attitude par rapport à la pandémie. Parce que, 5 millions d'habitants dont je fais partie, ce soir, on passe en zone rouge officiellement. Et nous, c'est ça, mais les autres provinces canadiennes, en revanche, présentent une hausse moins rapide quand même du nombre d'infections. Et là, on va se poser la question, comment on explique ça? Comment on interprète ça, ce mystère québécois? Plusieurs observateurs disent que les consignes sanitaires qui ont été quand même très, très bien respectées au printemps, là, on s'en rappelle, les gens ont été particulièrement dociles, pour reprendre une expression très contestée qu'a utilisée Geneviève Guilbeault en point de presse. Mais toujours est-il que ces consignes-là sont de plus en plus banalisées, on les questionne. Et est-ce que c'est à cause de ça qu'on voit nos cas augmenter? J'en parle avec Roxane Borges-Da Silva, qui est professeure au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Madame Borges-Da Silva, bonjour.
Bonjour, Madame Peterson.
Selon vous, à quoi on peut attribuer cette situation unique et quand même, disons-le, peu enviable du Québec en ce moment au niveau de la propagation de la COVID-19?
Et en fait, on n'a pas d'explication claire, mais on a des hypothèses. Et c'est des hypothèses qu'il va falloir vérifier dans le temps, ou vérifier avec des études confirmer. Mais déjà, les Québécois ont vécu un confinement qui était beaucoup plus sévère que certaines autres provinces. Donc, est-ce que les Québécois sont tannés? Est-ce que les Québécois, en fait, en ont marre, finalement, de toutes ces mesures-là? Et est-ce qu'il y a un laisser-aller? On ne respecte plus les recommandations de santé publique. Ça, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que les Québécois sont moins conscients de l'importance de les respecter? Est-ce qu'ils sont moins résilients aussi? Une autre question qui se pose aussi, c'est, vous savez, les Québécois sont plus de culture latine, française, alors que les anglophones, en fait, dans les autres provinces qui sont anglophones, sont plus des anglo-saxons. Les anglo-saxons, en général, une plus grande résilience, si je peux dire, sont plus dociles, pour reprendre vos termes, au sein de Mme Guilbeault.
Oui. On n'a pas aimé ça, se faire dire ça, justement.
Non, je crois qu'on n'avait pas aimé ça.
Ouais.
Donc, c'est ça, les anglo-saxons pourraient être plus dociles, je veux dire, en fait, respectent beaucoup plus les mesures, c'est dans leur caractère et dans leur culture, que les latins, qui sont un peu plus rebelles, si je peux dire. Alors, est-ce que ça serait ça? Il y a une autre question aussi, est-ce que les mesures du gouvernement sont plus molles, plus tempérées au Québec par rapport à ce que ça peut être dans d'autres provinces, comme on le voit avec les différences dans les écoles? Donc, toutes sortes de questions, en fait, d'hypothèses qui pourraient expliquer.
Puis on agit plus vite, je pense notamment à la Colombie-Britannique où on a décidé d'instaurer des couvre-feux beaucoup plus tôt. Ontario aussi, la question des écoles s'est menée complètement autrement. On a fermé certains établissements, les bars de danseuses. Nous, ça a été beaucoup plus long, mais... Là, parlons justement de la situation dans les écoles, cette fameuse rentrée scolaire que l'on attendait. Là, on va se le dire, on a tellement parlé des enfants qui est en train justement de perdre leurs acquis, des inéquités et tout ça, de la détresse aussi des parents qui devaient jongler avec le travail et la scolarisation à la maison. Là, est-ce qu'on est en train de se rendre compte, Madame Borges-Da Silva, que la rentrée scolaire est responsable en grande partie de la deuxième vague? Est-ce qu'on devrait refermer les écoles?
On peut pas encore affirmer que la rentrée scolaire est responsable de la deuxième vague, d'autant plus que...
Il y a des gens qui le pensent.
Oui, mais en tout cas, actuellement, moi je me sentirais pas capable en tant que scientifique de l'affirmer.
Ouais.
Par contre, on voit que il y a une très grande prévalence d'infections chez les jeunes, mais aussi les 20-30 ans. Donc quand je parle de rentrée scolaire, je pense aux primaires, aux secondaires. Primaires, secondaires ne semblent ont une beaucoup plus grande prévalence d'infection que ce qu'on avait au printemps. Mais donc je dirais pas que la rentrée scolaire est responsable pour l'instant. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines mesures qui ont été mises en place en Ontario, qui, comme par exemple le port du masque obligatoire même dans les classes, dans les écoles secondaires, mm-hmm. est-ce qu'on devrait y réfléchir au Québec? Ce qu'on voit aussi, c'est qu'en Angleterre, par exemple, là où le virus se propage le plus actuellement, c'est dans les écoles. C'est les lieux entre, si on compare les domiciles, les écoles, les lieux de travail, etc., les endroits les restaurants, par exemple, etc., ou les hôpitaux, ou les prisons, sur une étude qui vient de sortir, qui a été partagée par un collègue, on voit que c'est dans les écoles que se propage en Angleterre le virus, où il y a beaucoup plus de propagation où le virus circule le plus. Alors, est-ce qu'on devrait être proactif au Québec et mettre en place rapidement des mesures plus strictes avec une obligation du masque peut-être dès plus jeune ou encore un port du masque obligatoire même dans les deux classes, puisque de toute façon, ce sont des enfants qui en soirée après vont faire des activités de loisirs avec d'autres élèves et qui brisent les deux classes. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut être proactif plus rapidement plutôt que d'attendre que le feu pogne, je peux dire?
Oui, puis en même temps, on marche sur une très fine ligne, là, parce que d'un côté, évidemment, on a des décisions très importantes de santé publique à prendre, mais d'un autre côté, on veut préserver la santé des jeunes, leur santé physique, mais leur santé mentale, le côté sociabilisation aussi. Moi, ma fille est au secondaire, c'est très, très difficile, et les écoles ont un peu les mains liées, en ce sens qu'après les cours, ils se retrouvent au parc et là, laissent tomber un peu les mesures sanitaires parce qu'ils oublient ou parce qu'ils sont tannés. L'école, comme pas de jeu, ils peuvent rien faire. Et là, en ce sens-là, moi, je me pose la question, est-ce qu'on serait pas rendu à imposer des amendes plus importantes, à être plus au niveau des conséquences, justement, que de la prévention? Là, on le voit, il y a eu des manifestations un peu partout. On n'a pas vraiment distribué de constats d'infraction. On a eu, en fin de semaine, des rassemblements sur le Mont-Royal. Là, ce soir, il y a une manifestation au parc La Fontaine. Ça serait pas le temps de distribuer des amendes de façon massive?
C'est sûr que si on se compare à l'Ontario encore, on voit que les amendes sont beaucoup plus sévères. On voit que des restaurants ont été clairement fermés très rapidement quand les mesures n'étaient pas respectées. De notre côté au Québec, on a vu qu'il y a des milliers de visites qui ont été faites dans différents lieux de restauration et de bars, etc. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ces mesures-là, il n'y a pas eu tant de contraventions que ça dans ces établissements-là par rapport à toutes les visites qui ont été faites. Alors, est-ce que les avertissements sont suffisants? Il faut se poser la question. De toute façon, maintenant, les bars et les restaurants sont fermés. Mais peut-être pour la population générale, il faudrait, comme vous le dites, être beaucoup plus coercitif et arrêter de miser sur la bonne volonté des gens et sur l'incitatif pour que les gens le comprennent et respectent les mesures.
Puis comment on fait pour rejoindre les jeunes? Parce qu'on a fait appel à des influenceurs au printemps. Là, on voit que le message passe pas trop. Les jeunes aussi là sont pas mal moins résilients. Ils sont comme nous, ils sont tannés, ils ont donné. On leur a demandé beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour leur faire comprendre qu'ils sont importants? T'sais, hier, je l'entendais, le premier ministre Legault dire, vous avez votre rôle à jouer dans ce qui se passe en ce moment. Il faut que vous nous aidiez. Mais j'ai pas l'impression que le message passe tant que ça.
Non, et en fait, là-dessus, ça fait au moins une semaine qu'on est plusieurs experts à échanger sur Twitter là-dessus, justement, en se demandant pourquoi le gouvernement ne met pas en place des campagnes de publicité, en fait, ou de promotion des bonnes pratiques de santé publique sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, qui sont les plus utilisés par les jeunes. D'ailleurs, à ce sujet, le gouvernement vient de sortir hier, je pense, une campagne de publicité où c'est une dame qui dit que sa fille lui a donné la COVID et elle a failli mourir. En tout cas, je pour avoir des enfants aussi au secondaire, je leur ai montré et ça les a pas vraiment atteints.
Mais non, c'est la mère qui parle, ils s'en foutent.
C'est ça, exactement. Donc moi, j'encourage vraiment le gouvernement à faire appel à des influenceurs, des youtubeurs qui ont plusieurs millions de personnes jeunes qui les suivent.
Juste des jeunes qui l'ont eu. Puis tu sais, il faut aller sur TikTok, il faut aller sur Instagram. Parce que c'est là aussi que les jeunes trouvent cette désinformation. Tu sais, moi, il y a pas une journée qui se passe sans que ma fille me montre des captures d'écran, de stories qui circulent, de vidéos sur TikTok où il y a des influenceurs qui sont conspirationnistes, qui partagent toutes sortes de fausses nouvelles, toutes sortes de fausses informations. À un moment donné, il faut être là, justement, où le bas blesse et où les jeunes sont.
Absolument. Et j'espère que le gouvernement va écouter cette recommandation et il va faire des capsules pour justement contrer les complotistes qui diffusent des informations complètement aberrantes que les jeunes du coup vont avoir tendance à écouter parce qu'ils voient pas la contrepartie du gouvernement sur leurs réseaux sociaux.
Exact. Madame Borges da Silva, aussi un autre enjeu qui est inquiétant, c'est le fait qu'en ce moment, on est en train de voir des urgences qui débordent. On est en train aussi d'assister à un épuisement généralisé du personnel soignant. Ça, il va falloir agir aussi à ce niveau-là, parce que est-ce que notre système, il est prêt à absorber cette hausse de contamination et cette hausse aussi d'hospitalisation? On l'a vu avec les chiffres d'aujourd'hui, là, ça continue de gonfler.
Oui, mais c'est vrai que notre système de soins de santé est très fragile actuellement. On espère vraiment, on espère sincèrement que le système de soins de santé va être capable d'absorber, de continuer de faire les chirurgies semi-urgentes et non urgentes et ne pas délester toutes ces choses-là. Il existe des mesures qui peuvent être mises en place, comme faire appel à d'autres ordres professionnels, ce qui avait été peu fait lors de la première vague pour des questions d'entente et de règlement entre les ordres professionnels et le gouvernement. J'espère que le gouvernement, au cours de l'été, y a travaillé pour pouvoir justement permettre aux physiothérapeutes, aux ergos, à tous ces professionnels de santé-là qui pourraient venir aider dans le réseau de la santé, soutenir les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, etc. On peut aussi faire appel aux retraités, donc ça c'est une autre mesure. On peut faire appel aux étudiants pour aider aussi. Là, le gouvernement a travaillé là-dessus aussi. Donc, avec ce renfort de différentes parties prenantes, en fait, que ce soit les retraités, les jeunes, les étudiants ou encore les autres professionnels de santé, on pourra arriver à passer à travers la deuxième vague à condition qu'elle soit pas trop forte et que les gens respectent les mesures de santé publique.
Là, on a recommencé au niveau du gouvernement à faire des points de presse un peu plus réguliers, hein, parce que cet été, ça avait été espacé, on avait moins de cas, puis je pense que c'est normal. Là, on revient parce que la situation se dégrade. Mais néanmoins, est-ce que vous trouvez que le message et que les mesures qui sont annoncées quotidiennement ou deux jours par le gouvernement, est-ce que vous trouvez que c'est clair?
Et en fait, ce qui est difficile, c'est que pour tout le monde, c'est difficile dans la mesure où on nous a sorti des couleurs, vert, jaune, orange, rouge, avec des mesures associées. Finalement, plusieurs régions ont changé de couleur et les mesures associées ont été différentes de celles qui avaient été proposées au départ.
Le docteur Arruda, d'ailleurs, disait, et moi, ça m'avait fait sursauter, il disait, il y aura plusieurs nuances d'orange et plusieurs nuances de rouge. Tu sais, c'est comme, c'est comme si tu dis à quelqu'un, t'annonces une conséquence, mais que finalement, avant d'avoir cette conséquence-là, t'as toutes sortes de conséquences plus soft avant.
T'sais. Oui, et puis même, les gens dans les paliers verts ont déjà eu des recommandations de santé publique qui s'appliquaient normalement aux oranges ou aux jaunes, qu'on leur a demandé d'appliquer dès le palier vert. Donc, en tout cas, ça vient très mêlant pour les gens. C'est pour ça que j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup dans la communication le défi 28 jours. Là, c'est sans contact. Là, c'est clair. Tout le monde, 28 jours sans contact, puis on règle ça. Là.
Mais c'est pas clair. Donc, c'est pas clair pour tout le monde. Les gens, moi, je parlais encore hier à des gens qui habitent au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ils disaient, ben non, ça s'applique pas à nous. Nous, on n'est pas en zone orange, on n'est pas en zone rouge. Tu sais, il y a une confusion quand même, là.
Oui, il règle la confusion, tout à fait. Mais c'est en ayant des messages clairs pour tout le monde qu'on arrivera à la réduire. Et ce défi 28 jours sans contact s'applique à tout le Québec. Et si tout le monde y met du tien, en réduisant les contacts pendant 28 jours, les contacts sociaux, les parties, toutes les réunions, en fait, tous les contacts non essentiels doivent être supprimés. Dans ce contexte, on pourra arriver. Donc, plutôt que mettre toutes sortes de couleurs, toutes sortes de mesures qui bougent, en fait, même avec les couleurs et au fur et à mesure de chaque jour, ben, ce message-là est beaucoup plus clair pour moi que les paliers, les couleurs, puis les mesures qui changent tous les jours.
Merci, Roxane Borges de Silva, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et vraiment, il était intéressant, cet article sur le laxisme des Québécois. Aussi, un autre texte que j'ai trouvé intéressant ce matin, c'est un texte du Devoir, justement, où on parle de cette clarté-là. Quand on a un manque de clarté, quand la population a l'impression que le gouvernement, justement, ne improvise, puis je veux pas dire que le gouvernement improvise, en ce moment, c'est pas du tout ça, je crois, qui se passe. Ils font leur possible avec les informations dont ils disposent au moment de prendre les décisions, mais n'empêche que le résultat final, au bout du compte, souvent, c'est qu'ils n'ont pas l'air sûrs de leur shot. Et ça inquiète les gens. Ça crée de l'angoisse. Puis, en même temps, il faut pas trop faire peur au monde. Et c'est ce que je trouvais intéressant dans l'article du Devoir. Notamment, il y avait une docteure en neurosciences qui disait, vous savez, la carte de la peur, je pense que c'est Madame Marin, vous savez, la carte de la peur, elle doit être jouée avec prudence. Parce que quand on a peur, puis la réaction normale du cerveau humain, là, c'est de vouloir éviter le danger. de vouloir fuir. Donc, normalement, tu suis les consignes, puis tu restes chez vous. Sauf que si tu crées un état de panique dans la population, ça a d'autres effets pernicieux. Et aussi, on le sait, à force de trop crier au loup, les gens y croient plus au loup. Donc, la carte de la peur, faut la jouer avec parcimonie. Il faut la jouer quand c'est vraiment nécessaire. Et de toute façon, je pense que quand on assiste et quand on voit chaque jour le nombre de cas au Québec de gens qui sont contaminés par la COVID-19, juste ça fait office de rappel à l'ordre. Mais je l'ai dit, on marche sur une corde raide. Il y a rien de simple. On est en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou, là, c'est-à-dire de vouloir régler, évidemment, les questions de santé publique, les questions économiques et de faire de la politique en même temps. C'est sûr que ça pourra pas fonctionner tempête dans ces trois secteurs de l'existence.